France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Que peuvent bien avoir en commun des personnalités aussi différentes que Pascal, Mozart, Leopardi, Chopin, Toulouse-Lautrec, Rimbaud ou encore Minou Drouet? Tous ont été, en leur temps ou a posteriori, considérés comme des enfants prodiges. Enfants prodiges, cette notion recouvre-t-elle une réalité psychologique ou n'est-elle finalement qu'une invention destinée à conforter le bourgeois dans la conception qu'il se fait de l'art et de l'enfance? C'est en tout cas dans une perspective résolument critique que Jean-Michel Abadi abordait le phénomène en lui consacrant un volet du Monde insolite diffusé pour la première fois sur France Culture le 21 avril 1972.
Il est à la mode depuis plus d'une dizaine d'années, peut-être même 15 ou 20, de parler de mythologie. Il en est une pourtant qui me semble presque passée inaperçue, celle de l'enfant et plus spécialement celle de l'enfant prodige. Et pourtant, il me semble que la mythologie de l'enfant prodige est une des celles qui seraient des plus tenaces dans l'esprit des bonnes âmes dont nous faisons peut-être tous partie. Il est significatif que de tous les vers médiocres de Victor Hugo, il y en ait quelques-uns qui sont tout particulièrement médiocres et qui soient encore privilégiés dans nos écoles, comme celui-ci que nous avons sans doute tous appris lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris, etc. Et par ailleurs, je pense à deux faits divers et rigoureusement contemporains. Nous remarquons que l'opinion publique ne s'est attachée qu'au second. Dans les années 1955, nous nous rappelons que deux enfants avaient non seulement assassiné l'un de leurs petits camarades, mais avaient su préméditer et ensuite dissimuler le meurtre. Ce jour était peut-être trop gênant, jeté sur l'image de l'enfant, et l'opinion, pour des raisons que nous essaierons d'analyser, a préféré s'emparer d'une autre espèce d'enfant, la petite Minou Drouet, qui dans les mêmes années était censée écrire des poèmes dont les mêmes bonnes âmes s'extasièrent. C'était aussi l'époque à laquelle Roberto Benzi, qui avait alors 17 ou 18 ans, était encore habillé de culottes courtes. Tous les adultes que nous sommes, en proie aux difficultés du monde contemporain, semblent vouloir investir l'enfant de la pureté perdue, d'une bonté que un regard plus attentif jeté sur l'enfant suffirait à dissiper peut-être. Enfin, quoi qu'il en soit, il n'est pas dans notre intention de nier les pouvoirs magiques de l'enfant à travers toutes nos sociétés, depuis l'enfant pharaon qui témoigne du divin jusqu'à l'enfant Dionysos, jusqu'à l'enfant dont nous parle Virgile dans la quatrième bucolique, annonçant le retour de l'âge d'or et le salut de l'Empire. Enfin, évidemment, n'oublions pas l'enfant de nos crèches de Noël d'aujourd'hui. Il est évidemment impossible, en une demi-heure également, d'analyser les motifs qui ont conduit nos sociétés à privilégier cette image de l'enfant. Nous pouvons cependant tout de suite rappeler que le thème de l'enfant prodige, prodige par ses dons et non par sa naissance, n'apparaît en Europe qu'à une date relativement avancée. Le premier enfant prodige que nous rencontrions, Pascal, ne donne pas, en son temps du moins, naissance à une mythologie véritablement constituée. Le premier cas qui nous intéresse est évidemment celui de Mozart. Il est peut-être important que le premier cas observable d'enfant prodige coïncide avec l'apparition de la notion de génie à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où la bourgeoisie va accéder en tant que classe sociale effectivement au pouvoir politique, social, économique et également au domaine de l'esthétique. C'est donc en ces temps que l'enfant Mozart parcourt les cours d'Europe. Pensons à cette anecdote, que je crois également significative, celle qui nous montre le petit Mozart avec la dauphine Marie-Antoinette sur les parquets de la galerie des glaces du château de Versailles où le petit Amédéus avait glissé. L'enfant prodige et la princesse, un sous-titre de conte néo-romantique. Avant de donner l'opinion de deux psychanalystes spécialistes de l'enfance, Françoise Dolto et Maud Manoni, nous voudrions nous référer tout d'abord à deux textes qui vont orienter notre réflexion. Le premier est une nouvelle dont la traduction est inédite en France, une nouvelle de Thomas Mann qui porte précisément le titre « Das Wunderkind », l'enfant prodige. Le second texte sera un article de Roland Barthes, publié tout d'abord dans les lettres nouvelles et réédité ensuite dans le volume Les mythologies par Le Seuil en 1957.
L'enfant prodige entre et tout se tait dans la salle. Le silence s'installe, mais ensuite les gens se mettent à applaudir parce que dans un coin de la salle, un spectateur s'est mis à applaudir le premier. Ils n'ont encore rien entendu, mais ils applaudissent. Une puissante publicité a précédé l'enfant prodige et les gens sont, consciemment ou non, déjà étourdis. L'enfant prodige surgit de derrière un luxueux paravent brodé de couronnes empire et de grandes fleurs fabuleuses. Il monte rapidement les marches de l'estrade, entre dans les applaudissements comme dans un bain, parcouru d'un léger frisson. Il y plonge cependant comme dans un élément ami. Il s'avance au bord de la scène, sourit comme si on allait le photographier, remercie d'une adorable et timide petite révérence, bien que ce soit un garçon. Il s'appelle Bibi Sachellafilakas. Eh oui, tel est son nom. De quel prénom Bibi est-il l'abréviation ou le diminutif affectueux? Personne ne le sait, à l'exception de l'impresario, qui considère cela comme un secret d'affaires. Bibi a des cheveux plats et noirs, qui lui tombe jusque sur les épaules, et malgré tout rejeté sur le côté de la tête, retenu par le nœud d'un ruban de soie, sur son front étroit et bombé. Il a le visage d'enfant le plus innocent qui soit, un bout de nez pas fini, une bouche sans pressentiment. Il a l'air de n'avoir que 9 ans, mais il en a 8, et sa publicité lui en donne 7. Les gens ne savent pas s'ils doivent vraiment y croire. Peut-être savent-ils la vérité et préfèrent ne pas y croire car ils sont habitués à penser ainsi dans bien des cas. La beauté, pensent les gens, implique un peu de mensonge. Et ils ont raison dans leur tête de gens. L'enfant prodige remercie jusqu'à ce que se calme le crépitement des applaudissements. Ensuite, il va vers le piano. Il s'assied sur le tabouret tournant, accroche ses pieds sur les pédales qui, au moyen d'un ingénieux mécanisme, sont placés beaucoup plus haut que ce n'est d'habitude, et tout cela afin que Bibi puisse les atteindre. Bibi pose ses petits pieds vêtus de soie sur les pédales, puis il met sur son visage une expression pleine de finesse, regarde droit devant lui et lève la main droite. Cette expression de visage, Bibi la prend pour les gens, parce qu'il sait bien qu'ils veulent un peu de distraction. Mais il y trouve pour sa part son plaisir, un plaisir qu'il ne saurait décrire à personne.
Bibi termine la première partie de son programme et nous reprenons le texte de Thomas Mann.
Bibi termine en grande pompe. Avec quelle force ce petit bonhomme manie son piano. On n'en croit pas ses oreilles. Le thème de la marche, une mélodie pleine d'élan et d'enthousiasme, apparaît une fois encore dans tout son développement harmonique, large et somptueuse. Et à chaque mesure, Bibi rejette le corps en arrière comme s'il marchait triomphalement dans un cortège. Enfin, il termine avec fougue, glisse le long du tabouret et attend en souriant les applaudissements. Et les applaudissements éclatent, unanimes, pleins d'âme et d'enthousiasme. Regardez-moi ça, comme il a de jolis hanches quand il fait sa révérence.
Ensuite, Bibi joue parmi ses œuvres une fantaisie qui lui tient particulièrement à cœur.
Ma fantaisie, pense Bibi plein de tendresse. Écoutez-moi ces mesures où je vais passer en ut dièse. Et il joue le passage. Est-ce qu'il remarque? Et non, il ne remarque pas. Et alors, pour qu'ils aient du moins quelque chose à voir, il fixe joliment son regard vers le plafond. Les gens contemplent l'enfant prodige. Ils pensent toutes sortes de choses dans leur cervelle de spectateur. Un vieux monsieur à barbe blanche pense « En vérité, on ne devrait pas avoir honte d'être là, vieillard grisonnant, et se laisser séduire par les merveilles d'un bonhomme haut comme trois pommes. Il faut se dire que tout ça vient d'en haut. Dieu répartit ses dons comme il l'entend, et ce n'est pas une honte d'être un homme ordinaire. C'est un peu comme avec l'enfant Jésus. On doit pouvoir s'incliner devant un enfant sans avoir honte. Quelle étrange impression de bien-être cela procure. »
Thomas Mann rapporte ensuite les sentiments de l'homme d'affaires, de la vieille fille, professeur de piano, de la gamine déjà amoureuse. Relevons les réflexions de l'officier et du critique d'art.
Un officier est appuyé contre une colonne. Il contemple Bibi couvert de gloire, et pense, tu as quelque chose, je suis aussi quelque chose, chacun à sa manière. Pour le reste, il claque des talons et témoigne à l'enfant prodige le respect qu'il doit à toute puissance établie. Mais le critique, un homme vieillissant dans son costume noir et élimé, assis dans un fauteuil gratuit, pense, il suffit de le regarder, ce petit poseur. Comme individu, il a encore du chemin à parcourir, mais comme type d'artiste, il est déjà parfaitement achevé. De l'artiste, il a déjà toute la grandeur et son manque de dignité, son charlatanisme et son étincelle sacrée, son mépris et son ivresse divine. Qu'est-ce que l'artiste? Un pantin.
La nouvelle se termine par la description ironique de la gloire de Bibi, culminant dans l'entrevue de l'enfant prodige avec la vieille princesse, représentante dans la salle des petites cours allemandes. Après cette description déjà très lucide, nous en venons à un texte plus incisif encore, celui que Roland Barthes publia sous le titre « La littérature selon Minou Drouet » dans les lettres nouvelles et que nous retrouvons dans les mythologies, publiées par Le Seuil en 1957.
L'affaire Minou Drouet s'est présentée pendant longtemps comme une énigme policière. Est-ce elle ou n'est-ce pas elle? On a appliqué à ce mystère les techniques habituelles de la police, moins la torture et encore, l'enquête, la séquestration, la graphologie, la psychotechnique et l'analyse interne des documents. Si la société a mobilisé un appareil quasi-judiciaire pour tenter de résoudre une énigme poétique, on se doute que ce n'est pas par simple goût de la poésie. C'est parce que l'image d'une enfant poète lui est à la fois surprenante et nécessaire. C'est une image qu'il faut authentifier d'une façon aussi scientifique que possible, dans la mesure où elle régit le mythe central de l'art bourgeois, celui de l'irresponsabilité, dont le génie, l'enfant et le poète ne sont que des figures sublimées. S'interroger furieusement, comme on l'a fait dans la presse, sur l'authenticité de la poésie drouettiste, c'est partir d'un préjugé de l'enfance et de la poésie, et quoi qu'on trouve en route, y revenir fatalement. C'est postuler une normalité à la fois poétique et enfantine, en vertu de laquelle on jugera Minou Drouet. C'est, quoi que l'on décide, enjoindre à Minou Drouet de se charger, à la fois comme prodige et comme victime, comme mystère et comme produit, c'est-à-dire en définitive comme pur objet magique, de tout le mythe poétique et de tout le mythe enfantin de notre temps. Prise en charge aujourd'hui par une campagne de presse et la caution de quelques personnalités, elle nous donne précisément à lire ce que la société croit être l'enfance et la poésie. Cités, vantés ou combattus, les textes de la famille Drouet sont de précieux matériaux mythologiques. Il y a d'abord le mythe du génie, dont on ne peut décidément jamais venir à bout. Les classiques avaient décrété que c'était une affaire de patience. Aujourd'hui, le génie, c'est de gagner du temps, c'est de faire à 8 ans ce que l'on fait normalement à 25 ans. L'enfance deviendra donc le lieu privilégié du génie. À l'époque de Pascal, on considérait l'enfance comme un temps perdu. Le problème était d'en sortir au plus vite. Depuis les temps romantiques, c'est-à-dire depuis le triomphe bourgeois, il s'agit d'y rester le plus longtemps possible. Tout acte adulte imputable à l'enfance, même attardé, participe de son intemporalité, apparaît prestigieux parce que produit en avance. Le miracle de Minou Drouet, c'est de produire une poésie adulte, quoique enfant. C'est d'avoir fait descendre dans l'essence enfantine l'essence poétique. L'étonnement ne vient pas ici d'une destruction véritable des essences, ce qui serait fort sain, mais simplement de leur mélange hâtif. C'est ce dont rend bien compte la notion toute bourgeoise d'enfant prodige. Mozart, Rimbaud, Roberto Benzi, objet admirable dans la mesure où il accomplit la fonction idéale de toute activité capitaliste, gagner du temps, réduire la durée humaine à un problème numératif d'instants précieux. Ce n'est pas par hasard que l'Express a pris en charge Minou Drouet. C'est la poésie idéale d'un univers où le paraître est soigneusement chiffré. Minou, elle aussi, essuie les plâtres pour les autres. Il n'en coûte qu'une petite fille pour accéder au luxe de la poésie. Vouloir à grand cri que le roman soit roman, la poésie, poésie et le théâtre, théâtre, cette tautologie stérile est de même sorte que les lois dénominatives qui régissent dans le code civil la propriété des biens. Tout ici concourt au grand œuvre bourgeois qui est de réduire enfin l'être à un avoir, l'objet à une chose. Thank you.
Nous aurions aimé avoir avec nous, à cette table, Madame Françoise Dolto, malheureusement retenue par des conférences. Elle nous a cependant autorisé à reproduire ici son opinion, la même d'ailleurs que celle exprimée par Madame Maud Manoni, par exemple. Selon ces deux spécialistes, l'enfant prodige, cela n'existe pas. Il y a des enfants surdoués, des enfants sous-doués, des enfants moyennement doués. Quant à l'enfant prodige, c'est un problème qui relève de la psychosociologie plus que d'une analyse de l'intelligence. Voilà qui est catégorique. Jacques Brosse, vous êtes l'auteur d'un livre auquel vous avez donné le titre « Le génie adolescent ». Pensez-vous, comme Roland Barthes, que l'enfance prodige soit d'abord un mythe sociopolitique ?
Oui, je le pense, parce qu'il y a une question de date. Vous savez que l'enfant prodige n'apparaît véritablement que dans la période préromantique et romantique. Le mythe de l'enfant prodige correspond à une évolution des idées et à une certaine commercialisation, il faut bien le dire, du côté spectaculaire du jeune prodige.
Dans l'esprit de Roland Barthes, la notion d'enfant prodige est indissociable de l'idée de génie. L'idée de génie apparaissant effectivement à la fin du XVIIIe siècle, mais dans l'esprit de Barthes, la fonction sociopolitique de cette notion de génie serait de consacrer l'irresponsabilité sociale et politique de l'artiste.
Oui, je suis d'accord en gros avec ce que dit Barthes. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que ça correspond à l'évolution des idées, n'est-ce pas, au fait que la civilisation, à la fin du XVIIIe siècle, avait atteint un espèce de niveau de rupture. Et c'était une société d'adultes pour adultes. L'enfant n'existait pas en tant qu'enfant, on nous l'a montré dans plusieurs livres récents. Et il y avait certainement un besoin de détruire cette espèce de sclérose de l'âge en essayant de retrouver une spontanéité qui n'existait plus. Enfin, pensez quand même à la poésie de la fin du XVIIIe siècle, en dehors des pré-romantiques, n'est-ce pas ? C'était quand même une poésie de vieux messieurs bavards. Donc il fallait retrouver les sources. Le courant des idées qui conduit à la Révolution française, c'était justement de montrer aussi qu'il y avait une espèce d'égalité entre tous les êtres, il n'y avait pas de classe, mais il n'y avait pas non plus de classe d'âge. Donc, si vous voulez, dans une certaine mesure, cette société se déstructure, hein, on aboutit à une société où il y a une égalité du talent, et l'égalité du talent, ça devient finalement le génie, car il n'y a pas autre chose que cela, puisqu'il ne s'agit plus d'une longue préparation, mais de la spontanéité de l'être, on recourt finalement à l'enfant, c'est l'enfant lui-même qui montre la voie. Alors, dans cette mesure, évidemment, on recourt à ce génie, puisque ce génie seul, ce génie originel, peut sauver, en somme, presque la civilisation qui est sclérosée, n'est-ce pas ? Il faut retourner aux sources. Donc, il y a, en effet, on privilégie l'enfant. Et dans cette mesure-là, l'enfant prodige devient, si vous voulez, presque le symbole même de l'enfance. N'est-ce pas ? C'est l'enfant par excellence, l'enfant prodige, puisqu'il a déjà tous les dons, il n'a encore rien appris, mais c'est un espèce de respect pour, en somme, l'origine. N'est-ce pas ? Si vous faites de l'enfant prodige un objet de foire, n'est-ce pas ? Un objet, disons, de spectacle, du même coup, vous anéantissez en lui cette espèce de génie spontané, puisque vous le mécanisez. Puisque l'homme de la fin du XVIIIe siècle se tourne vers ses origines, ben c'est un geste qui est en soi positif. Mais très vite, l'homme social s'arrange pour que ça ne fasse pas trop de dégâts. Alors, le pas trop de dégâts de la précocité de l'enfant, des éclairs que peut avoir l'enfant, du développement accéléré de l'enfant devient l'enfant prodige, c'est-à-dire un objet devant lequel, en effet, on peut s'incliner, puisqu'il est à votre disposition.
Oui. Hein? Là, vous rejoignez l'analyse de Barthes.
Oui, finalement, oui. On est bien obligé de revenir là.
Alors après ces aperçus historiques, nous en étions au 18e. Nous revenons à nos jours. Comment décrivez-vous, non pas l'avenir d'un enfant prodige, il semble ne pas en avoir, mais enfin...
Non, il n'y en a pas.
Son cycle vital, disons.
Il n'y en a pas. Mais justement, dans le génie adolescent, ce que j'ai montré, c'est que dans le cas de 20 génies qui sont tous morts avant l'âge de 40 ans, il y a eu des phénomènes, disons, de très grande précocité chez chacun d'entre eux. Il y a eu un développement très très rapide. Mais j'en arrive à conclure, après avoir examiné ces 20 cas, qui sont des génies extrêmement importants, puisque ça va de Pascal à Chopin, à Mozart, même Toulouse-Lautrec, et Rimbaud, par exemple, que pour chacun d'entre eux, leur précocité extrême témoigne d'un développement accéléré. En ce sens que s'ils sont morts à 40 ans, c'est qu'ils ne pouvaient pas vivre plus longtemps. C'est évidemment une truisme. Mais on s'aperçoit, quand on étudie leur vie, qu'ils ont eu, dans cet espace qui va de la naissance à 40 ans, l'évolution normale de n'importe quel autre être qui serait mort très vieux. En ce sens qu'ils ont simplement eu une enfance courte, une jeunesse brève, n'est-ce pas, un âge mûr extrêmement réduit, et une vieillesse et même une sénilité. Dans le cas de Pascal et de Chopin, par exemple, ou de Leopardi, c'est notoire, ils ont été des vieillards à 30 ans. Alors, de là à conclure que finalement, ils ont vécu toute leur vie, ils ont fait tout le cycle, je pense que c'est presque une nécessité.
Et n'y a-t-il pas à vos yeux une sorte de paradoxe dans le fait que, en faisant de l'enfant prodige un objet de foire, un produit commercial, on aboutit pratiquement à une négation de ce qui serait une véritable vision enfantine du monde? L'enfant prodige devient un faux adulte avant la lettre, et il y a une négation à l'intérieur même du système.
Oui, c'est exact. Je crois que c'était pour la société bourgeoise romantique une façon, en effet, d'en finir avec cette démarche de retour aux sources, n'est-ce pas? La société vieillissante de la fin du 18e éprouvait ce besoin de retour aux sources. Et puis on s'aperçoit qu'en définitive, c'est trop dangereux, car en définitive, faire des adultes des enfants, c'est quelque chose aussi de très dangereux. Alors il vaut mieux à ce moment-là faire des enfants des adultes. C'est une façon de résoudre le problème en le niant. L'enfant prodige, c'est la négation même de la précocité de vue de l'enfant. Or, tout enfant, effectivement, possède une vue du monde qui est différente de celle des adultes. Et d'un certain point de vue, je pense que nous sommes encore maintenant à une période correspondante à celle de la fin du 18e, période de rationalisme aussi des échants, et que c'est en effet vers l'enfant qu'il faut se tourner d'une certaine manière, mais justement vers l'enfant normal, et pas vers l'enfant prodige.
Malgré toutes les réserves, vous portez quand même un jugement positif sur le phénomène. Enfin,
moi, personnellement...
Il y a quelque chose de sain.
Oui, il y a quelque chose de sain, certainement. Certainement.
Alors si Roland Barthes était parmi nous, il vous dirait que vous succombez aux tentatives de récupération de la société, etc.
Et qu'en oui, réalité, mais nous sommes tout à fait d'accord, Roland Barthes et moi, sur la question de l'enfant prodige. Et qu'en définitive, cette évolution que le 18e siècle a fait vers l'enfant, c'est-à-dire cette façon de se retourner vers l'enfance, et qui a été coupée par le fait que ça a été récupéré par la société bourgeoise sous forme de l'enfant prodige, c'est un mouvement qu'il faut continuer à faire, il faut accomplir ce mouvement qu'on n'a pas encore fait. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a eu un mouvement qui était sain au départ, hein, qui est devenu malsain par suite de l'exploitation du prodige, donc du phénomène, hein, et que cette évolution vers les sources, vers la source enfantine, qui était tout de même la démarche même des romantiques allemands, n'est-ce pas, et tout ce que ça comportait de changement par rapport à la mentalité précédente, ce mouvement-là en soi était sain, mais il a été coupé net. C'est ça l'enfant prodige.
Selon vous, il est donc souhaitable de privilégier une vision enfantine, mais sincère, et débarrassée de son exploitation.
Certainement, elle ne sera pas pire que celle des adultes actuels.
C'était Le Monde Insolite, l'enfant prodige, une émission proposée par Jean-Michel Abadi et diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 avril 1972. Elle est à réécouter ou à télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.